Bonjour, très heureux d'être encore parmi vous une nouvelle fois pour discuter et réfléchir autour de ce thème, un thème qui peut nous interpeller de différentes manières, puisque aussi à cause des actualités qui sont très difficiles que nous avons traversées dans notre pays avec les attentats, il y a peut-être des gens qui se sont dit « oui, mais la religion, c'est dangereux, et puis le Dieu de la Bible, il est dangereux, voire même il est mauvais, parce que peut-être qu'il inciterait, selon ces personnes, à commettre des mauvaises choses. » Et puis ils vont dire « mais oui, mais dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait des choses, des signes de violence, etc. » Donc le but, c'est de réfléchir un petit peu autour de ce thème pour pouvoir déjà nous-mêmes fortifier notre confiance en Dieu. Pouvons-nous faire confiance au Dieu de la Bible ? Est-il un Dieu bon ? Et puis aussi, au-delà de nous, cette prédication est là pour nous donner quelques éléments de réponse pour pouvoir discuter avec les personnes qui nous entourent et qui se posent ces questions. Puisqu'il y a des gens qui profitent des actualités, et puis même déjà avant, pour essayer de casser Dieu. Hein, vous savez, il y a des mouvements athées, et puis il y a ce qu'on appelle le nouvel athéisme aussi, qui trouve pas seulement que, comme dans l'athéisme traditionnel, ils allaient dire, bon, les croyants, bon, les pauvres, ils ont rien compris, voilà. Mais le nouvel athéisme, non seulement il dit être croyant, c'est être stupide, mais il dit, mais en plus, c'est être dangereux. Puisque il contient dans la foi chrétienne dans d'autres fois aussi pas seulement un élément, on va dire, aux yeux des athées peut-être stupide, mais en même temps dangereux. Ça devient même suspect aux yeux du mouvement qu'on appelle le nouvel athéisme d'être croyant. Et un des grands piliers du nouvel athéisme, c'est Richard Dawkins, un scientifique britannique. Et il a écrit un livre qui a été traduit en français sous le nom de « Pour en finir avec Dieu ». Et donc, il y a cette citation-là dans ce livre, « Le Dieu de la Bible, le personnage de fiction le plus déplaisant ». Et en fait, il va beaucoup plus loin. Alors, sans vouloir vous choquer, voilà ce qu'il écrit sur Dieu. « On peut dire que, de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant ». Jaloux et fier de l'être, il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter. Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunanique et malveillant, ce misogyne homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. Voilà une description terrible, tellement insultante, dans la bouche de Richard Dawkins. Et alors, par contraste, on pourrait dire, on a chanté aucun de ces qualificatifs dans les chants tout à l'heure. Ça montre qu'il existe une autre vision beaucoup plus éclairée de Dieu. Donc ici, nous sommes face à une objection morale par rapport à la foi chrétienne. On n'est pas dans le fait de dire est-ce que la foi chrétienne est juste et est vraie, mais on est en train de se poser la question, est-ce que même elle est bonne? Et donc, pour certains athées, mais aussi pour certains chrétiens, ça peut être difficile de lire certains passages de l'Ancien Testament, notamment, et c'est celui sur lequel on va se pencher, la conquête du pays de Canaan. Et parfois, même dans le cœur du chrétien, on ressent une certaine, peut-être, amertume ou au moins incompréhension. Ici, le problème, c'est pas l'existence de Dieu, mais c'est peut-on faire confiance à ce Dieu? Peut-on même faire confiance à la Bible? Alors, face à des passages comme ceux de la conquête de Canaan, il y a deux options. Soit on se dit, bon, ben, on peut pas accepter toute la Bible. Cette partie-là, on l'accepte pas. Ça va être ce qu'on appelle un peu la position libérale. Ou alors, la position évangélique, on va se dire ben, qu'il doit y avoir une raison morale derrière ces choses même qui nous heurtent. Et je vais essayer de défendre la deuxième position. Pourquoi? Ben, d'abord parce que j'ai confiance en Jésus et que Jésus faisait confiance à l'Ancien Testament. Et aussi, la deuxième raison, c'est parce qu'il est possible de voir dans suffisamment de cas les raisons derrière les actions de Dieu, que même lorsque ça nous paraît un petit peu plus difficile, eh bien, comme il y a beaucoup de cas où on peut trouver les raisons de Dieu, eh bien, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Donc, pour aller plus loin, je dirais que la majorité des textes ne posent pas problème. D'ailleurs, certains des plus beaux textes qui décrivent Dieu se trouvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, Deutéronome 32:4, « Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. » Voilà des textes qui sont dans l'Ancien Testament, et on pourrait en multiplier, qui décrivent Dieu de manière vraiment, vraiment magnifique. Et puis, en tant que croyant, on peut déjà se dire que Jésus, dans le Nouveau Testament, parle du même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. On pourrait même aller plus loin en disant que Jésus, non seulement il parle du même Dieu que l'Ancien Testament, mais il est le Dieu incarné de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il faut pas se séparer en disant il y avait le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu, c'est la même révélation, et Jésus-Christ est la parole faite chair, il est Dieu venu sur la terre, il est Dieu de l'Ancien Testament venu sur la terre. Il est le Dieu unique venu sur la terre. Alors, il n'y a pas de réponse, de solution simple à cette question, mais nous allons essayer de voir quelques pistes de réflexion. Alors, d'abord, de manière générale, pour lire l'Ancien Testament, quelques clés. Voir la grande histoire. C'est intéressant de se dire qu'il ne faut pas... C'est important de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire lorsque il donne le pays de Canaan au peuple d'Israël. Et en fait, il faut voir la grande histoire. Il est en train de dérouler son plan général de rédemption. Alors, si vous me permettez une petite comparaison, c'est un petit peu comme dans des films. Des fois, pour aller sauver, par exemple, une petite fille, eh ben, il y aura une course-poursuite dans la ville. Alors, il y a des voitures qui vont sur le fossé. Il y a plein de trucs. Il y a peut-être des combats, des tirs d'armes à feu, tout ça. Et on se dit, finalement, combien d'accidents, combien peut-être même de morts pour sauver juste une petite fille. Mais finalement, quand on regarde le film, ça nous choque même pas, quoi. On veut que la petite fille soit sauvée, parce que, on regarde dans cette perspective-là. En fait, on veut voir l'histoire globale. Alors bien sûr, la comparaison n'est pas forcément très bonne, mais quand on a une vision globale, on sait dans quel but Dieu fait les choses, on arrive mieux à comprendre. Deuxième chose, c'est le concept de Dieu. Dieu ne peut pas être évalué comme nous le sommes, parce qu'il possède des droits uniques. En tant que créateur, il a des droits que nous n'avons pas. Par exemple, même le droit de retirer la vie, nous ne l'avons pas. Nous sommes des créatures et une créature ne peut pas retirer la vie d'une autre créature comme ça. Par contre, Dieu qui est le créateur a un autre statut. Donc il a des droits uniques, même le droit de reprendre notre vie. Et aussi Dieu a des possibilités uniques que nous n'avons pas. Par exemple, il est capable d'accorder à quelqu'un des compensations éternelles par rapport aux souffrances qu'il a vécues dans sa vie. Ou peut-être même par rapport à la brièveté de sa vie, Dieu est capable d'offrir des possibilités de récompenses que nous ne pouvons pas faire. Et une dernière piste assez générale, c'est que il faut savoir que la Bible parle de Dieu agissant dans un monde désordonné. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais comme l'homme s'est rebellé contre Dieu, ça a tout perturbé dans la relation de l'homme à Dieu, de l'homme avec l'homme, de l'homme avec la nature, et même de l'homme avec lui-même. Et c'est dans ce contexte-là que nous est donnée la révélation. Donc Dieu est en train de composer avec une humanité désordonnée. Et Dieu agit aussi avec le temps, parfois lentement, parfois graduellement. Il ne révèle pas tout de lui tout de suite. Il y a une révélation progressive de Dieu au sein de cette humanité désordonnée. Il agit dans une humanité mauvaise qui est aussi régie par des forces mauvaises. Et au sein de cette humanité, il va se révéler progressivement dans le temps. il faudrait aussi faire une distinction entre ce qui est prescriptif et descriptif. Ce qui est dit dans la Bible, c'est pas toujours ce que Dieu veut. D'ailleurs, parfois, c'est même le contraire de ce que Dieu veut. Par exemple, dans Juges 21-25, on peut lire « En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Et donc, on voit que là, c'est pas du tout la volonté de Dieu qui se passe, c'est simplement ce que chacun voulait faire. Autre chose, ce que Dieu permet n'est pas toujours dans son plan initial. Et un des exemples que cite Jésus, c'est par exemple le divorce. Il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Donc on voit que Dieu permet des choses à cause du mal qui est là, pour peut-être limiter le mal, mais même si c'était pas dans sa volonté, au plan initial. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, et on peut voir d'autres situations qui sont comme ça. Alors vous allez me dire, et à raison, oui, mais là, le point difficile avec la conquête de Canaan, c'est pas seulement qu'il permet quelque chose, c'est qu'il ordonne quelque chose. Et effectivement, là, il y a une nuance. Donc, penchons-nous dessus de manière un peu plus précise. Encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas de réponse simple, mais il y a quelques éléments qui nous permettent de comprendre. D'abord, ce n'est pas un génocide, mais c'est un jugement. Et là, ça répond à une des accusations que avait avancé Richard Dawkins dans l'extrait que je vous avais lu. S'agit-il d'un génocide ou d'une épuration ethnique? Non, ce n'est pas du tout cela. Le racisme est loin de la pensée de l'Ancien Testament. On peut le voir par plusieurs textes. Genèse 12:3, il est prévu que tous les peuples de la terre seront bénis au travers d'Abraham. Donc il n'y a pas, c'est pas une question de préférence ethnique ou raciale. Exode 12:38, à la libération d'Égypte, il est dit, une foule nombreuse et composite se joignit à eux. Donc en fait, quand le peuple d'Israël s'est affranchi du joug de l'Égypte, eh bien, avec eux est partie une foule nombreuse qui faisait pas partie même du peuple hébreu. On peut voir aussi, contre le racisme du peuple hébreu, on peut voir aussi que dans Nombre 12:1, il est dit que Moïse a épousé une femme couchite, donc d'une autre ethnie. Lévitique 19:34 nous dit « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc encore un verset, puis on pourrait multiplier les exemples qui montrent que le peuple ne devait pas faire de préférence sur une base ethnique. On peut aussi remarquer qu'il n'y avait aucune supériorité ethnique au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, puisque le lexique de la destruction était aussi appliqué au peuple d'Israël. C'était aussi une menace que Dieu faisait peser sur le peuple d'Israël d'être détruit, d'être déporté, s'il ne respectait pas l'alliance. Alors, il y a plusieurs versets, hein, Exode 22-24, Deutéronome 7-4, 28-15, où le Seigneur menace de détruire complètement le peuple d'Israël s'il est désobéissant par rapport à la loi. Donc on pourrait, ce que je veux essayer de montrer par là, c'est pas que Dieu a détruit les peuples qui étaient en Canaan parce que, je sais pas, ils seraient supérieurs. Non, aussi le peuple hébreu était sous la menace de la destruction de Dieu. C'est pas que Dieu ferait un favoritisme sur une base raciale. D'ailleurs, l'Éternel dit explicitement qu'il n'a pas choisi le peuple d'Israël pour ses vertus, parce que c'est un grand peuple, mais il l'a choisi simplement par grâce. On peut le voir dans Deutéronome 7, les versets 7 et 8. Alors, ce n'est pas une épuration ethnique, mais c'est un jugement. Il faut savoir qu'il y avait des pratiques horribles dans le pays de Canaan. Deutéronome 18, les versets 9 à 12, dit ceci. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille. Interrogez les oracles, pratiquez l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. Tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur, ton Dieu, dépossède les nations devant toi. » Donc là, c'est très clair. Pourquoi le Seigneur dépossède les nations qui étaient en Canaan pour installer son peuple? C'est parce qu'elles pratiquaient ces choses horribles. Notamment dans la liste, il y a donc le sacrifice humain, sacrifier son fils ou sa fille par le feu. Donc c'était des pratiques qui étaient faites dans ces tribus qui peuplaient Canaan. Ils brûlaient leurs enfants pour le dieu Moloch, et c'était donc une pratique que le Seigneur ne voulait pas accepter. Quelqu'un au sujet de la déesse Anat, qui était donc vénérée en Canaan, dit ceci: donc il y avait un tel bain de sang qu'elle en avait jusqu'aux genoux, que dis-je, jusqu'au cou. Sous ses pieds se trouvaient des têtes humaines, au-dessus d'elle des mains volaient telles des sauterelles. Sa joie au cœur de cette boucherie était célèbre. Son foie se gorgeait de rire, son cœur débordait de joie, etc. Donc, pour décrire quelles étaient des fois les fêtes pour les divinités qui étaient adorées. Et quelque part, quand on voit des horreurs qui sont commises dans le monde, encore aujourd'hui, par exemple, avec Daesh ou autre, on peut des fois se dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Et là, lors de la conquête de Canaan, Dieu est intervenu pour exercer son jugement sur des peuples qui pratiquaient des horreurs. Et en même temps, on se plaint. Et là, on dit, mais pourquoi il est intervenu? Donc, vous voyez, on peut pas à la fois dire pourquoi Dieu n'intervient pas, et puis quand il intervient dans l'histoire, on lui reproche d'être intervenu pour juger un peuple. En fait, il faut comprendre que Dieu qui se met en colère et qui juge, c'est pas incompatible avec un Dieu d'amour. C'est même peut-être parce qu'il est amour qu'il se met en colère et qu'il juge. Voilà ce qu'écrit un théologien, Miroslav Volf, qui est d'origine croate, mais qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Il écrit ceci: « Je pensais autrefois que la colère était indigne de Dieu. Dieu n'est-il pas amour? L'amour divin ne devrait-il pas dépasser le courroux? Dieu est amour. » Et Dieu aime chaque personne et chaque créature. C'est justement pour cela que Dieu est en colère contre certaines d'entre elles. Ce sont les pertes humaines dans la guerre de l'ex-Yougoslavie, dans ma région d'origine, qui m'ont fait accepter cette idée de la colère divine. Selon les estimations, 200 000 personnes furent tuées et plus de 3 millions déplacées. Villes et villages ont été détruits. Mon peuple a été bombardé de jour comme de nuit. Certains ont été maltraités au-delà de tout entendement. Je ne pouvais pas m'imaginer que Dieu ne soit pas en colère. Pensez au Rwanda au milieu des années 1990, où 800 000 personnes furent massacrées sur une période de 100 jours. Quelle fut la réaction de Dieu face à ce carnage? L'amour débordant d'un grand père gâteau? Le refus de condamner le bain de sang au nom de la bonté intérieure des coupables? Dieu n'était-il pas puissamment en colère contre eux? Moi qui me plaignais de la colère divine comme d'une indécence, j'en suis venu à penser qu'il me faudrait me rebeller face à un Dieu qui ne serait pas en colère à la vue du mal dans ce monde. Dieu n'est pas en colère malgré qu'il soit amour. Dieu est en colère parce qu'il est amour. Voilà donc une citation de ce Miroslav Volf, théologien croate. Voilà un premier élément de réponse. Les autres seront plus rapides. Un deuxième élément de réponse par rapport à la conquête de Canaan, c'est qu'on pourrait souligner, et il faut souligner, que ce n'est pas un événement normatif, mais c'est un événement unique qui a lieu une seule fois dans l'histoire du salut. Le contexte général pour la guerre est décrit dans Deutéronome 20, et il s'agit de proposer la paix. Si une ville se rendait, eh ben il fallait que les personnes donc qui peuplaient cette ville soient assujetties, c'est-à-dire soumises à un impôt. Et si la ville voulait entamer le combat, eh bien seuls les hommes étaient tués. Ça, c'était le contexte général de la guerre qu'on peut lire dans Deutéronome 20. Et là, on est dans un cas très particulier, un cas unique dans l'histoire d'Israël. Israël aussi était considéré comme un prototype de la nation qui suit Dieu. C'est donc dans un temps unique et limité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne pourrait pas faire pareil, ne devrait pas faire pareil, puisqu'il n'est pas du tout dans le même contexte. On pourrait aussi remarquer, pour dire que c'est unique, qu'après Josué, les batailles décidées par l'Éternel étaient défensives. C'est en fait pendant une période spécifique, stratégique et relativement courte, que Dieu a voulu établir Israël sur la terre qu'il avait promis donc à ses ancêtres, afin d'accomplir son plan ultime sur le long terme, c'est-à-dire la rédemption. Et ce faisant, il punissait un groupe de personnes par son jugement. Donc le commandement sévère de Dieu d'installer son peuple dans ce pays-là, c'était un épisode unique dans l'histoire de la rédemption. Et c'était en même temps qu'il installait son peuple dans ce pays-là, il jugeait le monde, enfin il jugeait les Cananéens pour leur négligence morale, pour leur horreur morale même. Donc ce n'est pas un épisode normatif, c'est un épisode unique, très circonstancié. Le troisième point peut être choquant au premier abord, mais je vais essayer d'expliquer. La conquête de Canaan, ce n'est pas une initiative humaine, mais divine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas Moïse, ou plutôt son successeur Josué, qui s'est dit, tiens, allons-y, on va attaquer Canaan, et du coup, l'a fait. Mais cela venait d'un commandement de Dieu. Ce n'est pas que c'est un peuple qui, de lui-même, aurait décidé ça, mais c'est Dieu qui a dirigé. Alors on pourrait se dire, oui, mais est-ce que là, on n'est pas en train de donner des arguments justement à ceux qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues? Mais souvenez-vous que Dieu n'a pas les mêmes restrictions que nous. En fait, nous voyons souvent l'histoire de manière déformée. Nous pensons que nous sommes des gens bien et que Dieu, il n'a aucun droit sur nous. Nous sommes du bon côté et Dieu n'a pas le droit de nous juger. Mais Dieu ne voit pas du tout les choses comme ça. Dieu voit l'humanité dans un état catastrophique et tout le monde mériterait même d'être jugé. Romains 3, verset 10 jusqu'au verset 18 décrit l'humanité telle qu'elle est vue par Dieu. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui cite ce passage, mais en fait, il fait une compilation de plusieurs psaumes de l'Ancien Testament et il dit ceci. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent le parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Voilà comment l'Éternel voit l'humanité. C'est pas juste un bon peuple qui mérite rien du tout. Non, l'humanité mérite le jugement de Dieu et Dieu a le droit d'exercer son jugement. Et souvenez-vous, il est même capable de compenser si jamais son jugement avait été temporairement trop sévère. Il est capable d'accorder une éternité de bonheur. Un autre point très important, c'est que le jugement n'a pas été immédiat, mais il a été différé. En Genèse chapitre 15, verset 16, donc en Genèse, on voit déjà que Dieu parle en disant que la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Et Dieu donne 400 ans à ces peuples-là pour changer d'attitude. Et au bout de 400 ans, ils n'ont toujours pas compris, et donc le jugement s'abat. C'est pas que Dieu va prendre ces gens par surprise. Déjà 400 ans avant, Dieu avait repéré ce pays et il a usé de sa patience. Et enfin, on pourrait noter qu'il n'est pas inéluctable, mais qu'il aurait été évitable si les peuplables s'étaient repentis. Parce que nous avons d'autres passages dans la Bible où nous voyons que Dieu menace et que lorsque le peuple se repent, eh bien, il retire son jugement. Par exemple, le livre de Jonas nous montre cela. Jonas, le prophète, annonce la destruction de Ninive, mais comme la ville se repent massivement et retourne à Dieu, eh bien Dieu retire son jugement. Alors nous pouvons penser que de la même manière, si les Cananéens pendant ces 400 ans étaient retournés à Dieu, eh bien peut-être que, sans doute, nous avons même toutes les raisons de penser que Dieu aurait retenu son jugement. D'ailleurs, même le livre de Josué nous montre que des personnes qui ont reconnu le vrai Dieu, eh bien, ont été sauvées. Par exemple, Rahab, la prostituée qui a caché les espions hébreux, a pu être sauvée. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Chaque point n'est pas en soi, on va dire, totalement convaincant, mais je pense que l'accumulation de ces arguments et notre confiance dans le Dieu de la Bible peut nous donner quelques pistes de réflexion pour appréhender ces passages surprenants de l'Ancien Testament. Pas facile de lire l'Ancien Testament, ça parle de sang, ça parle de jugement, mais le Nouveau Testament parle aussi de jugement. Jésus lui-même a beaucoup parlé de jugement. Il a eu même des paroles dures et parfois même des gestes durs et des gestes violents. Par exemple, dans Jean chapitre 2, les versets 14 à 17, on voit que Dieu incarné, Jésus, arrive au temple et il est dit, il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes et en fit un fouet et les chassa de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui se consume. » Nous voyons que dans le Nouveau Testament, il y a aussi cette idée de la sainteté de Dieu, de ce Dieu qui ne peut pas être bafoué, et donc que Jésus lui-même a agi avec force, avec violence, pour l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. Dieu n'est pas un copain. Dieu reste le Dieu qui a toute autorité, et qui mérite tous les honneurs. Et quelque part, l'Ancien Testament préfigure le jugement à venir. Jésus a parlé du jugement qui va aussi arriver. Et un jour, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, et il y aura un jugement. Si Jésus a défendu l'honneur de Dieu, pensez-vous qu'il laissera passer nos compromis ? Nous serons jugés. Dieu est un Dieu juste et qui nous jugera. Alors celui qui est enfant de Dieu, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ, n'a pas à craindre la condamnation, puisque il est déjà passé de la mort à la vie, comme nous dit Jean chapitre 5. Il est enfant de Dieu, la condamnation a été déjà payée par Jésus-Christ, mais quoi qu'il en soit, même le croyant passera en jugement pour ses œuvres et pour les récompenses aussi de ses œuvres. Et les non-croyants aussi passeront devant le jugement pour qu'ils soient jugés selon leurs œuvres et même ils recevront donc des peines de gradations différentes selon aussi les actes et les œuvres qu'ils ont fait dans leur vie. Mais je pense que ces textes de l'Ancien Testament doivent nous interpeller sur l'urgence, la nécessité et la gravité aussi du jugement dont parle le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu va donner le sang de son Fils et non celui de ses ennemis. Dieu va subir la mort que ses ennemis méritaient, que nous méritions, que je méritais. Il va, on pourrait dire quelque part, s'offrir en victime de sa propre justice. Et la question qui est la nôtre, c'est que va-t-on faire de cette solution qu'offre Jésus par rapport au jugement final ? Alors peut-être vous vous dites, mais moi je ne crois pas que tout ça est vrai. Mais souvenez-vous, cette objection, c'était pas de savoir est-ce que la Bible est vraie, mais est-ce que la Bible est bonne ? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu ? Et en analysant l'Ancien Testament et en voyant quel Dieu se manifeste dans le Nouveau Testament, que c'est le Dieu qui s'offre lui-même, qui offre le sang de son Fils comme victime de sa propre justice, eh bien, je pourrais dire, oui, nous avons toutes les raisons d'adorer ce Dieu-là. Nous avons toutes les raisons de lui faire confiance. Nous avons toutes les raisons de lui confier notre vie et d'accepter aussi l'œuvre qu'il a fait pour nous. Donc voilà, je prie que nous puissions avoir une vision de Dieu, peut-être encore transformée par la sainteté de Dieu qui se dégage dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que cela va aussi nous donner des pistes pour témoigner autour de nous, et que cela, quelque part, nous replace face à notre responsabilité, face au sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que je vais accepter cette offre qui me permet d'échapper au jugement de Dieu que je mérite. Je vous propose un court temps de prière. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu juste, ce Dieu qui se met en colère contre le mal. Merci parce qu'un jour tu vas juger toute la terre et toutes les horreurs qui sont commises aujourd'hui et qui ont été commises par le passé. Mais merci Seigneur parce que tu as prévu une solution pour que je puisse être sauvé, pour que nous puissions être sauvés de ce juste jugement que nous méritons tous. Merci pour Jésus-Christ. Merci parce que tu es venu sur la terre pour t'offrir en sacrifice, pour que nous puissions recevoir ta justice. Nous te prions, Seigneur, que nos contemporains puissent voir dans le Dieu de la Bible un Dieu saint, un Dieu plein d'amour, et qu'ils puissent décider de faire la paix avec ce Dieu d'amour. Nous te prions, Seigneur, pour les gens de notre famille qui ne sont pas encore chrétiens. Nous te prions pour les gens qui nous entourent, qui ne sont pas encore chrétiens, au travail, à l'école. Nous te prions, Seigneur, que tu nous utilises, si c'est ta volonté, pour être des témoins sur leur chemin et vivre de ton amour et manifester cet amour autour de nous. Amen.